بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi, le 6 du mois d'Al-Hijjah de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 23 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de cette risala très bénéfique et très profitable dans la croyance et la méthodologie de l'imam Ahmad, intitulée « Sharhu usul al-sunnah » avec l'explication d'un imam contemporain qui est Cheikh Rabi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Et comme vous savez, dans l'étude de la croyance, nous étudions principalement trois volets. Le premier concerne les questions fondamentales ou les points fondamentaux de la croyance. Les points fondamentaux de la croyance, ce qu'on appelle usul al-aqida, usul al-aqida, yani les points fondamentaux. Et dans ce volet, nous allons étudier yani les grandes règles qui gèrent ce domaine et l'appliquer principalement sur les six piliers de la foi. Car comme vous savez, l'aqida, ça tourne autour des six piliers de la foi. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle Masailu al-Asma'i wal-Ahkam, dans lequel nous allons étudier ce qu'on appelle l'asma', yani les appellations, l'islam, l'iman, l'ihsan, et l'opposé de ces choses-là. La grande mécréance, la petite mécréance, shirk al-akbar, l'associationnisme majeur, l'associationnisme mineur, l'hypocrisie, ces différentes catégories, et ainsi de suite. Et l'ahkam, yani les jugements qui sont relatifs à ces choses-là. Et quand est-ce que nous témoignons de l'islam d'une personne? Quand est-ce que nous témoignons de sa mécréance? Et rentre dedans les règles concernant l'apostasie. Le troisième volet, et le dernier, c'est un volet dans lequel nous allons étudier des questions qui sont en lien avec les fondements de la croyance. Les fondements de la croyance. Donc, il y a plusieurs masa'il. Ça, dans les livres de l'aqida, des fois, ils mentionnent les règles concernant le mas'h ala al-khuffayn. Et pourquoi ils vont mentionner des questions qui sont d'ordre de la jurisprudence dans la croyance? Car il y a des croyances qui sont liées à ces points-là. Par exemple, c'est devenu le signe d'une grande secte égarée, ou des choses de ce genre-là. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un point très important dans la croyance qui concerne les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'a vis-à-vis d'eux et les sectes qui se sont égarées par rapport à ce point fondamental. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dit « وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. Donc les meilleurs de cette communauté ou le meilleur de cette communauté après son prophète, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman. Nous citons d'abord ces trois qui sont les meilleurs des compagnons d'une manière absolue, comme les compagnons eux-mêmes les ont classés dans cet ordre-là, sans qu'il y ait de divergence entre eux par rapport à cet ordre. Ça a été rapporté d'Ibn Umar, radiallahu anhu, ce classement où il cite les trois seulement, il s'abstient sur le reste des compagnons. Donc, Cheikh Rabi, rahimahullah, dit que dans ce point, l'imam Ahmad a abordé le mérite des compagnons. Et leur mérite est prouvé dans les textes, que ce soit dans le Coran, le livre d'Allah, la sunna authentique de son prophète, et le consensus des savants de l'islam. Et ils ne se sont conformés à ce point que les sectes de l'égaré parmi Al-Khawarij et Al-Rawafid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, il nous parle de leur mérite. Par exemple, dans Sourate Tawba, Allah Azza wa Jalla dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les tout premiers précurseurs parmi les immigrés, les muhajirin, et les ansar, les alliés, ainsi que ceux qui les auront suivis fidèlement sur la voie du bien. Allah les agréera comme l'agréeront. Et il a aménagé pour eux des jardins sous lesquels coulent des rivières où ils séjourneront à tout jamais. Tel est le succès suprême. Allah Azza wa Jalla dit également: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ils ne sont pas égaux parmi vous ceux qui ont dépensé de leurs biens avant al-fath. Al-fath, est-ce que c'est la conquête de Mecca ou c'est le pacte de l'Hudaybiyah? Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal. Cela, bien évidemment, ceux qui ont dépensé avant cette conquête, cette grande victoire, sont et qui ont combattu sont meilleurs. Et à tous, Allah a promis wa kullan wa'ada Allahu al-husna, une belle promesse. Pour chacun d'entre eux, Allah a fait une belle promesse, la promesse de lui accorder le paradis. Donc ceux qui ont dépensé avant al-fath et qui ont combattu sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que sa parole soit la plus haute sont meilleurs que ceux qui ont combattu après cela. Et à tous, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la belle promesse. رقم 10 نشوف كيف يقول aussi dans d'autres versets, comme celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Dans le sens approximatif, ça c'est dans sourate Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont intraitables face aux mécréants, pleins de manicétude les uns envers les autres, pleins de miséricorde et de compassion les uns envers les autres. Tu les vois qui s'inclinent et se prosternent, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. Leurs marques distinctives sont là sur leur visage, par l'effet de la prosternation. Et ça, les savants, ils disent que ce qui est voulu, ce n'est pas le signe qu'on puisse voir sur le front. Mais c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera le jour de sa rencontre sur leur visage. C'est ça qui rentre tout d'abord dans le sens de ce verset. Ensuite, il a dit dans le sens, c'est ainsi qu'ils sont décrits dans la Torah, tandis que dans l'Évangile, ils sont comparés à la semence qui laisse surgir ses pousses, devient une plante vigoureuse, généreuse et ferme sur sa tige, au grand bonheur du cultivateur, pour en faire mourir d'envie les mécréants. Li'aridha bihimul kuffar. Et il promet à ceux qui, parmi eux, ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, le pardon et une immense récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans sourate Al-Hajr, « Ma afa Allahu ala rasulih » Cheikh n'a pas cité ce début du verset, il a cité du « L'ilfuqara il muhajirin alladhina ukhrijou min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana » وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Donc ça, c'est les émigrés. Et ensuite, il a cité les alliés, les Médinois. Il a dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Donc ça c'est par rapport aux Médinois. Après il a cité une troisième catégorie, comme a dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, qui sont وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, ceux qui les ont fidèlement suivis, ceux qui sont venus après eux et qui les ont fidèlement suivis sur leur voie et qui leur font dua et qui demandent à Allah de leur pardonner et qui n'ont nullement de haine vis-à-vis d'eux. Comme Cheikh Rabi l'a mentionné, et comme l'a mentionné l'imam Ibn Kathir également dans son tafsir, l'imam Malik a fait une déduction incroyable par rapport à ce verset. Magnifique. Une déduction de sa propre compréhension de ce verset. Car comme vous constatez, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du partage du butin. Et après avoir cité les catégories auxquelles le butin est accordé, la famille du prophète alayhi salatu wa salam, les orphelins qui sont dans le besoin, et la famille du prophète alayhi salatu wa salam qui sont dans le besoin, et les orphelins qui sont dans le besoin, les nécessiteux et les pauvres, et ceux qui n'ont plus les moyens durant leur voyage, qui n'ont plus les moyens, Ibn Sabil. Après avoir cité ces catégories auxquels on donne une partie du butin, Allah a cité trois autres catégories auxquelles on donne le butin à leurs pauvres. Et il a cité les émigrés, les pauvres parmi les émigrés, en premier. Et ensuite, il a cité les pauvres parmi les Médinois, l'Ansar, qui ont accueilli leurs frères parmi les émigrés, et qui ont partagé avec eux leurs biens, et qui n'avaient aucune jalousie par rapport aux biens, aux faveurs par lesquelles Allah a comblé les émigrés. Là, le degré de l'émigré est supérieur au degré de l'Ansari. Et dans les émigrés, il y a des degrés. Et dans l'Ansar, il y a des degrés également. Donc, les 10 annoncés au paradis, ils sont tous des émigrés. Les 10 annoncés au paradis. Donc, après avoir cité ces gens-là, il a cité les trois catégories. Il a commencé par auxquels on donne une partie du butin. Le butin, il est partagé d'une certaine manière. Un cinquième, et un cinquième de ce un cinquième est donné à chacune de ces catégories. Taïb. Il a cité les émigrés. Et ensuite, il a cité les Ansar, les Médinois. Et ensuite, il a cité ceux qui les ont suivis fidèlement. L'imam Malik a déduit de ça qu'on ne donne pas le butin à ceux qui insultent les compagnons parmi le Rawafid ou le Khawarij. On ne leur donne pas du butin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comme Allah a décrit ceux à qui on donne le butin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ أَكْبَرُ. Ils disent, le butin également revient à cette troisième catégorie, après la catégorie des émigrés et des alliés, ou là de l'Ansar, ou là des Médinois. La troisième catégorie, à qui revient également ceux qui arrivaient plus tard à Médine et qui disent, Seigneur, veuille nous pardonner. Seigneur, veuille nous pardonner, veuille nous pardonner, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ils invoquent Allah en faveur de leur personne et de leurs frères qui les ont précédés dans la foi, parmi les émigrés, parmi les Ansar, qui nous ont précédés dans la foi. Et ne met point de rancune dans nos cœurs. Donc ils n'ont pas de rancune, ni de haine, vis-à-vis des compagnons, d'aucun des compagnons. Celui qui a de la rancune, qui a de la haine dans son cœur contre les compagnons, on ne lui donne pas. Et ça, c'est une déduction magnifique de l'imam Malik de ce verset. Et Salaf, tous ont suivi cette déduction de l'imam Malik. L'a mentionné l'imam Tabari dans son tafsir. C'est rare de trouver un savant de Salaf qui n'a pas mentionné cette déduction de l'imam Malik de ce verset quand il l'a expliqué. Et après Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, au sujet desquels il n'y a pas de divergence, au point où l'imam Ahmed, quand on lui a posé la question, quel est le meilleur après le prophète, alayhi sallam, il a dit Abu Bakr. Et il s'est interrogé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute de ça? Il s'imagine même pas qu'on puisse douter de cela, ni de Omar. Et après, l'imam Ahmad a cité Uthman radiallahu anhu, le troisième. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Omar, il a dit, à l'époque du prophète, on mettait Abu Bakr au premier rang, puis Omar, puis Uthman, et après on ne citait personne. Et après, on ne citait personne. Yani avant de passer à ça, Ibn Abi Layla, rahimahullah, a dit les gens, par rapport à cette faïda de ce verset dans lequel les trois catégories sont mentionnées. Ibn Abi Layla a dit, les gens sont de trois degrés. Le premier, c'est les émigrés. Et le deuxième, c'est l'ansar. Et le troisième, c'est ceux qui les ont suivis fidèlement sur leur voie. Il a dit, alors fais de ton mieux pour que tu sois dans une de ces trois catégories. Et attention à rentrer dans une autre catégorie que ces trois-là. Parce que le bien est limité dans ça. Et ça, c'est une belle déduction également. Yani, le bien, c'est dans ça. Ou bien tu es un immigré parmi ceux qui ont soutenu l'islam dès le début. Si Allah ne t'a pas accordé ce mérite, alors essaie d'être un ansari. Ceux qui ont soutenu et qui ont accueilli les émigrés et qui ont reconnu leur mérite. Ansari savait que les émigrés étaient meilleurs qu'eux. Et ça, c'est le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Et si tu n'es pas de la deuxième catégorie non plus, alors sois au minimum dans ceux qui les ont suivis fidèlement sur leur voie jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est possible pour nous. Lakin, si tu sors de ça, tu es forcément dans un égarement. Le bien, il est limité dans ces trois catégories, comme a dit Ibn Abi Layla, rahimahullah ta'ala. Donc, Cheikh Rabi, il dit qu'il y avait une divergence au début entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a, qui est meilleur après Omar, Abu Bakr et Omar. Mais qui est le troisième? Il y en a qui ont dit Ali radiallahu anhu. Il y en a qui ont dit Uthman radiallahu anhu. Il y en a qui ne se sont pas prononcés. Ils ont dit, Abu Bakr et Omar, et le reste, Allahu alam. Ils sont tous dans des degrés très élevés pour nous, mais on ne sait pas qui est meilleur que l'autre. Ça, c'était au début. Lakin, par la suite, le consensus s'est établi. Et même Sahaba, même parmi Sahaba, beaucoup de Sahaba ont rapporté que Uthman radiallahu anhu est meilleur et qu'il n'y a pas de divergence entre les compagnons à ce sujet. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi après Omar radiallahu anhu. Et qu'après, c'est Ali radiallahu anhu. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi après Uthman radiallahu anhu. Ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, le très très grand savant parmi les compagnons. Ça a été rapporté de Abdurrahman ibn Auf, le très très grand compagnon également. Lakin, cette divergence était tolérée au début. Et notez bien, cette divergence était tolérée au sujet du mérite et non pas au sujet de l'ordre dans la gouvernance, dans le khilafa. Aucune divergence n'est tolérée dans le khilafa, car les muslimines étaient unanimement d'accord que le calife, le premier calife après le prophète, c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, et le troisième c'est Uthman, et le quatrième c'est Ali radiallahu anhum jami'an. Donc celui qui annule le khilafa de un de ces quatre, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est plus ignorant que l'âne qu'ils ont là. Min himari ahli. C'est une grande ignorance, car les musulmans étaient unanimement d'accord. Et les musulmans ne peuvent pas être unanimement d'accord sur une question qui est un égarement. La tajtami'u ummati ala dalal. Lakin, qui est meilleur? Il y avait une divergence qui était tolérée au début. Et certains préféraient Ali radiallahu anhu, notamment les gens de Kufa, cette ville en Irak. Comme l'imam Sufyan al-Thawri, il est rapporté que Sufyan al-Thawri est revenu sur cet avis. Et que finalement c'est Uthman radiallahu anhu qui est meilleur. Et que Ali vient en quatrième position. Et c'est ça l'avis juste. Et c'est ça le point sur lequel l'unanimité a été faite. Mais notez bien que celui qui ne se conforme pas à la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans leur classement, dans le Khilafa, Ça, c'est une divergence dans un fondement de la croyance, qui n'est pas toléré. Mais dans le mérite, le classement du mérite, ça, ça ne fait pas partie des fondements de la croyance. C'est pour ça que ça a été toléré avant que le consensus ne s'installe définitivement et que leur ordre dans le mérite est le même que leur ordre et leur classement dans Al-Khilaf. Donc après les quatre, il a dit Ashab al-Shura. L'imam Ahmed a mentionné Ashab al-Shura. Et ce qui est voulu par Ashab al-Shura, ce sont les six que Omar radiallahu anhu a choisi. Vous savez que Abu Bakr, après la mort du prophète, les compagnons ont choisi Abu Bakr. Et Abu Bakr avait désigné Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah. Mais Abu Ubaida a refusé. Il a dit, les compagnons étaient unanimement d'accord sur le choix de Abu Bakr. Ils ont dit, le prophète, t'as choisi pour nous diriger dans la salat et t'as agréé pour nous diriger dans notre religion, comment nous, on ne va pas t'agréer pour nous diriger dans nos affaires mondaines? Il t'a agréé pour notre religion et nous, on ne va pas t'agréer pour... Et donc, ils l'ont choisi. Et après, Abu Bakr a choisi Omar tout seul. Et subhanallah, ça donne les différentes catégories du choix du gouverneur, quand on peut le choisir. Bien évidemment, le choix de Abu Bakr, c'est l'idéal. Et ça remplit toutes les cases des critères. Également, après Abu Bakr, le choix de Omar est le choix parfait. Et après Omar radiallahu anhu, il n'y avait pas un compagnon, yani, comment l'exprimer? Là, c'est un domaine très dangereux. Il faut utiliser les termes des hommes de science. Quand on parle des compagnons, on ne parle pas de gens ordinaires comme tout le monde. On doit faire très très attention. Et encore plus grave quand on parle des prophètes et des messagers. Et encore plus grave quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour s'en sortir très bien, tu te limites à ce que les hommes de science ont dit. Donc, après Omar radiallahu anhu n'a pas désigné un seul homme pour lui succéder. Il a choisi six hommes. Et vous constatez que ces six hommes, ils sont les meilleurs après lui. Il a choisi les meilleurs après lui, dans la Ummah. Car les six, cinq parmi eux, font partie des dix annoncés au paradis, qui restaient encore vivants. Abu Ubaida, il était déjà décédé. Martyr dans la peste de Amwas, en Syrie. Donc il restait que cinq parmi les dix, vivants. Il les a choisis. Il a mis avec eux qui? En sixième, comme sixième, il a mis avec eux son fils, Abdullah ibn Omar, comme conseiller, mais qui ne peut pas accéder à ce poste. Il a dit, il n'accède pas au poste. Lakin, il donne son avis. Et vous constatez qu'il n'a pas choisi un des dix qui était encore vivant. Il ne l'a pas choisi dans la liste, qui s'appelle Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Un des grands compagnons et un des premiers dans l'islam. Pourquoi il ne l'a pas choisi? Parce que c'est son cousin, un membre de sa famille. Donc, tous les membres de sa famille ne peuvent pas accéder à ce poste. Il a choisi yani, les meilleurs des hommes qui restaient après lui et qui ne font pas partie de sa famille. Allahu Akbar. Impartialité absolue. Partialité absolue. Taïb.
C'est
impartialité absolue. Barakallahu fik. Radiallahu anhum wa ardahum. Taïb. Après, et les compagnons ont choisi à l'unanimité Uthman radiallahu anhu. Et après Uthman radiallahu anhu, les musulmans ont choisi Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Il reste le fait d'arriver au pouvoir par la force, ou là de désigner un de ses héritiers, comme a fait Muawiya radiallahu anhu. Il a désigné son fils pour lui succéder. C'est pour ça qu'on dit que Muawiya, c'est le premier roi des musulmans. Et c'est le meilleur des rois des musulmans. Il y a aussi le fait d'arriver au pouvoir par la force, jusqu'à avoir une domination et être reconnu comme gouverneur. À ce moment-là, on doit écouter et obéir. Donc tout ça, c'est des voies par lesquelles on arrive au pouvoir. Bien évidemment, quand on a le choix, on choisit le meilleur d'entre nous qui a les compétences requises. Parce que le meilleur d'entre nous dans la religion, des fois, ce n'est pas le meilleur pour accéder à ce poste. Comme ça a été le cas à l'époque du prophète Hassan, de certains compagnons qui étaient plus, qui avaient plus de science et plus de piété et plus d'ancienneté dans l'islam et qui sont meilleurs que d'autres, mais le Hassan ne les a pas choisis. Il a choisi d'autres compagnons qui n'ont pas le même degré que eux, lakin qui ont le savoir-faire et les compétences pour diriger. Lakin, quand on peut choisir, on choisit un gouverneur de Quraysh. Et on choisit quelqu'un qui a la science, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite parmi les critères. Les savants, ils mentionnent beaucoup de critères quand on choisit. Mais quand on ne choisit pas, il suffit d'avoir une seule condition pour que ça devienne un gouverneur légiféré. Une seule. C'est laquelle? Parmi les frères présents. تفضل
Quel est le pouvoir?
يا اخو. لا. Une seule condition. نعم الإسلام. أحسنت. Qu'il soit musulman. صافي. La seule condition, c'est qu'il soit musulman. Là, même s'il domine en étant mécréant, on ne doit pas lui obéir, sauf dans le cas de la nécessité. On n'a pas le choix. Là, qu'il en parle de l'obéissance légiférée et obligatoire dans tous les cas, du moment qu'il est musulman. Si par exemple on est gouverné par un kafir et qu'on n'a pas la capacité de le retirer et le renverser et de mettre en place un musulman, on s'insurge pas contre lui, car ça peut donner lieu a plus de mal que de bien, comme ce qui arrive le plus souvent. Taïb. Après ses compagnons, bien évidemment, les 10 annoncés au paradis, tous. Et les 10 annoncés au paradis, c'est commence par les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ensuite, Sa'dun wa Sa'id. Comme le Nabi Aslam les a cités, on cite le même ordre, il a cité d'abord Talha ibn Ubaydillah ou Zubayr ibn al-Awwam. Et ensuite, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd, Sa'id ou Abu Ubaydah Amir ibn al-Jarrah. Les 10 annoncés au paradis. Et c'est une honte pour un musulman de connaître les noms de joueurs de foot et de ne pas connaître les noms de ces 10 meilleurs hommes dans la communauté. Ceux, les premiers dans l'islam, ceux qui ont fait l'effort de propager cette religion, et si on est musulman, c'est à cause d'eux, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause d'eux qu'on est des musulmans aujourd'hui. C'est premier dans l'islam. Et ces hommes-là, comme on dit les imams de salaf, ils ont dit, quand le Nabi alayhi salam était dans les batailles, ils étaient toujours devant lui. Et quand il était dans la salat, ils étaient toujours derrière lui, directement. Donc c'est les hommes les plus proches du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est ceux qui ont fait le plus d'efforts dans cette religion. Al-Sunna, ils leur reconnaissent ce mérite. Et pour eux, tous les compagnons, pas seulement ceux-là, lakin ceux-là, c'est encore un niveau beaucoup plus élevé. Mais pour Al-Sunna wal-Jama'a, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une ligne rouge. Et tu dois être alerté si tu entends quelqu'un manquer de respect ou parler mal d'un compagnon. Ça, c'est une alerte et elle indique qu'il y a des maladies chez cette personne. Amma al-Sunna, ils ne disent d'eux que le bien. Ils ne croient pas qu'ils sont infaillibles. Lakin, ils ne disent d'eux que du bien, comme le Nabi al-Sallam nous a enseigné. Il a dit « Ida dhukira ashabi fa amsiku » Quand mes compagnons sont cités, alors ne dites pas de mal. Dites seulement le bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, lakin c'est les meilleurs hommes de cette communauté. Et même les choses, certaines erreurs qui ont été commises par certains d'entre eux, yani c'est incomparable par rapport à leurs bonnes actions dans l'islam. Et aussi, c'est avec des bonnes intentions, comme les divergences qu'il y a eu entre eux. C'est avec des bonnes intentions, tous ils voulaient que la parole d'Allah soit la plus haute. Et c'est des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder le degré du martyr à ceux, à certains parmi eux, et que ce soit des expiations pour d'autres, et ainsi de suite. En tout cas, quand on parle des compagnons, on ne dit que le bien. إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا Et Cheikh Rabi a mentionné, ou là avant, il a, après avoir mentionné ces 10, il a dit, après ces 10, nous avons les compagnons qui ont participé dans la bataille de Badr, et ceux qui ont fait le pacte de l'Hudaybiyya. Ceux qui ont fait le pacte de l'Hudaybiyya. Ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, leur nombre était de 300 et quelques. 313, 314, quelque chose comme ça. Donc, il les a cités après les 10. Et en troisième position, ceux qui ont participé dans Sulh al-Hudaybiyya radiyallahu anhu. Et leur nombre, c'était entre 1400 et 1500, quelque chose comme ça. Il y a des savants qui mentionnent, après les 10 annoncés au paradis, ils mentionnent ceux qui ont fait la première émigration et la deuxième émigration vers l'Abyssinie. Ils les mentionnent avant. Ashab Hijrat al-Habasha. Ils mentionnent avant eux également Ashab Bay'at al-Aqabat al-Ula wa al-Thaniya. Le pacte de l'Aqaba, quand le Nabi A.S. était encore à Médine, il a rencontré des Médinois et ils ont fait un pacte la première année. Leur nombre était de 12 ou là quelque chose comme ça, que des hommes. La deuxième année, il y a eu des hommes et deux femmes, 72 ou là 73, quelque chose comme ça. Donc il mentionne ses compagnons avant. Car c'est par leur cause que l'islam va se propager à Médine et que le premier état de l'islam verra le jour. Il les mentionne avant et après eux, il mentionne ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, les 313 compagnons. Et après, il mentionne ceux qui ont participé dans Al-Hudaybiyya, ce grand pacte qui a été une grande victoire pour les musulmans. Malgré que dans son apparence, c'était une humiliation. Les conditions qui ont été imposées par le kuffar, yani dans l'apparence, c'était une humiliation. Si il y a un musulman qui prend la fuite de Mecca vers vous à Médine, vous devez nous le renvoyer pour le torturer. Et s'il y a un kafir qui fuit Médine pour aller à Mecca, on ne vous le rend pas. Nabi al-Sallam a accepté. Dans d'autres conditions qui avaient une apparence humiliante. Mais le Nabi a accepté. Et Abu Bakr a accepté. Et Omar s'est posé la question. Il a dit au messager d'Allah, est-ce qu'on est moins fort que eux? Pourquoi on accepte ces conditions? Pourquoi on accepte l'humiliation? Il a demandé à Abu Bakr, il lui a dit, Allah, c'est Allah qui lui donne les ordres. Allah est plus savant. Et le Nabi Aslam a donné exactement la même réponse que Abu Bakr, radiallahu anhu, pour voir le mérite de Abu Bakr, radiallahu anhu. Et finalement, ces conditions qui étaient dans l'apparence une humiliation sont devenues des conditions très difficiles pour Kuffar Quraysh, au point où ils sont venus demander leur annulation. Ils ont demandé à annuler les conditions humiliantes parce que c'est devenu trop compliqué de les gérer pour eux. Notamment avec Abu Basir, radiyallahu anhu, qui a fui Mecca vers Médine. Le Nabi sallam lui a dit, voilà, mon pacte et mon engagement avec le Kuffar, c'est que je dois te rendre. Et regardez, Aïkhoa, regardez un point remarquable dans la tradition du prophète sallam et dans la guidée du prophète sallam ainsi que ses compagnons. Ils respectent leurs engagements vis-à-vis du Kuffar. Car l'engagement, c'est un engagement avec Allah, avant tout. Et également, ça permet de donner une bonne image de l'islam au Kuffar. Imagine si on est des traîtres, comme les Tekfir et les Khawarij en France, qui volent des cartes Visa et qui volent l'argent des Kuffars, sous prétexte que ce sont que des Kuffars. Regardez comment ils les présentent dans les médias. C'est des voleurs, c'est des arnaqueurs. Ce n'est pas des moujahidines. Allah al-Musta'an. C'est des voleurs et des arnaqueurs. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, ça c'était un point très important. Il respecte ses engagements vis-à-vis du kuffar. Je dois les rendre, il a ordonné à ce qu'on rende Abu Basir. Et Abu Basir, radiallahu anhu, a réussi à échapper après que le Nabi alayhi salam l'ait rendu. Il a réussi à échapper, il a formé un franc entre Médine et Mecca. Il a commencé à intercepter les caravanes commerciales de Mecca. Il les a esquintées, au point où ils ont demandé au prophète d'accepter qu'il rejoigne Médine et d'annuler cette condition. Donc, la leçon, ou la une des leçons qu'on doit tirer de ça, ce qui doit compter pour toi en premier, c'est de te conformer à la législation d'Allah. Du moment que tu sais que ce que Allah veut de toi, c'est telle chose, tu l'as fait. Et ne te soucie même pas du reste. Allah se charge de tes intérêts et de ton bien. Place ta confiance en Allah. Cherche seulement ce que Allah veut de toi et fais-le. Et ne te soucie même pas du reste. Lakin hna, à cause de notre faiblesse, à cause du manque de confiance qu'on a vis-à-vis d'Allah, on va regarder les côtés mondains, dunya, mais si je fais ça, je vais perdre mon travail, il va m'arriver telle et telle et telle chose, et on reste dans la bassesse. Parmi les savants qui ont mentionné l'ordre que je viens de vous citer, Al-Hakim, quand il a cité les catégories des compagnons, il a cité cet ordre-là. Et à peu près la même chose a été citée par Ibn Sa'd, également dans ses tabaqat, dans lesquels il a cité les classes des compagnons. Tayyib. L'imam Ahmad a dit « Wa kullu man sahibahu sanatan, aw shahran, aw yawman, aw sa'atan, aw ra'ahu » Donc, ici, il a donné la définition d'un compagnon. Donc, le compagnon, c'est celui qui était en compagnie du prophète pendant une année, un mois, un jour, ne serait-ce qu'un petit laps de temps, où il l'a vu une seule fois, où il l'a rencontré une seule fois, tout en étant croyant. Donc l'imam Ahmad, il n'a pas parlé de le rencontrer, il a parlé de le voir. Il y en a à la base, c'est de le voir. Et le fait d'être aveugle, les compagnons qui n'étaient pas voyants, c'est un petit nombre de compagnons. Donc la règle de base, c'est de voir le Nabi alayhi sallam. Lakin, celui qui est non voyant et qui a rencontré le Nabi alayhi sallam, ne serait-ce qu'une fois, c'est un compagnon. Il a rencontré tout en étant croyant. Il est mort croyant. Ça, c'est la définition de ce que c'est un compagnon. Et après, leur mérite, c'est pas le même. Pas tous ceux qui ont rencontré le Nabi, qui ont vu le prophète, ont le même degré de foi. Abu Bakr, lui tout seul, sa foi dans la balance, elle est plus lourde que toute la communauté, jusqu'à la fin des temps. Après Omar, après Uthman, après Ali, et ainsi de suite. Les 10 annoncés au paradis, Ashab al-Aqaba, Bay'at al-Aqaba, Badr, Thumma, Sulh al-Hudaybiyah. Et après, ceux qui sont entrés en islam, après la conquête de Mecca, qu'on appelle Tulaqa. Tous, c'est des compagnons. Et l'imam Ahmad a rappelé que celui qui vient après ses compagnons, comme bien même il fait toutes les œuvres, il n'arrivera pas au degré du dernier des compagnons. Car le mérite d'être un compagnon, c'est un mérite inégalable. C'est un mérite inégalable, quelles que soient tes œuvres. On peut trouver dans Tabi'in quelqu'un qui a plus de science que certains compagnons, comme Saïd ibn Musayyib. Lakin ne pensait pas, par le fait qu'il ait dépassé certains compagnons dans la science, qu'il va les dépasser dans le mérite global. Non. Tous les compagnons sont meilleurs que tous ceux qui viendront après eux. Comme a dit l'imam Ahmadis. Et Cheikh Rabi a rappelé que l'imam Ahmad, il reconnaît pour les compagnons leur mérite et leur statut extrêmement élevé et qu'ils sont les meilleurs des gens après les prophètes. Chaque prophète a des compagnons. Et les meilleurs des compagnons d'un prophète, c'est les compagnons de notre prophète. Et les meilleurs d'une communauté, ce sont les compagnons de son prophète. C'est pour ça, yani, j'ai oublié qui a dit ça parmi Salaf, mais un grand savant parmi Salaf, il a dit, Allah alam, c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj, si je ne me trompe pas. Il a dit, les juifs et les chrétiens sont meilleurs que Rafida dans deux caractéristiques. Ils lui ont dit lesquelles? Il leur a dit, on a demandé aux juifs, qui sont les meilleurs de votre communauté? Ils ont dit, ceux qui ont été en compagnie de notre prophète Moïse. Et on a demandé aux chrétiens, qui sont les meilleurs de votre communauté? Ils ont dit, ceux qui étaient avec Jésus, ses apôtres, ses compagnons. Et on a demandé aux Rafida, qui sont les pires de votre communauté? Ils ont dit, ceux qui étaient en compagnie de notre prophète. Excepté 3, excepté 4, excepté 10, selon les versions qu'ils ont. Had Rafida. Alayhim min Allahi ma yastahiqoun. Donc le mérite des compagnons, c'est les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers. Et jamais on a connu des hommes comme eux dans toute l'histoire de l'humanité, dans leur foi, dans leur certitude, dans leur sincérité, dans leurs efforts dans le sentier d'Allah et dans leur sacrifice. Allah leur a permis de conquérir les cœurs avant de conquérir les pays et les terres. Ils ont transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont combattu pour faire triompher sa religion et ils méritent de nous tout le respect et toute l'admiration. Et Cheikh Rabi a dit « Wallahi, min ajlihim nuwali wa min ajlihim nu'adi radiyallahu anhum wa ardahum. » Il a dit, par Allah, c'est par rapport à eux que nous prenons les gens comme des alliés ou des ennemis. L'alliance et le désaveu est fait par rapport aux compagnons, entre autres, mais par rapport à ce point fondamental de la croyance, qui est le statut des compagnons qu'Allah les agrée. Car ceux qui dénigrent les compagnons et qui disent qu'ils ont apostasié, ça veut dire que cette religion de l'islam, elle est caduque. Elle a été transmise par qui? Par des mécréants, par des apostats, selon eux. Qu'Allah les maudisse. Qu'Allah maudisse ceux qui disent ça. Et c'est pour ça, chez les savants de Al-Sunnah Al-Jama'a, celui qui critique un seul compagnon, ils disent c'est un zindir. C'est un pervers, un déviant, un grand égaré. Ça, c'est juste un manque de respect par rapport à un compagnon. Que dire de celui qui insulte et qui taxe de mécréance celui qui dénigre un compagnon, c'est un rafidi khabith. Un seul. Il dit du mal d'un compagnon. Pour ça, Salafi disait, Mu'awiya, c'est un voile. Celui qui يعني, pénètre le voile, il va dénigrer le reste des compagnons. Pour ça, il reconnaissait l'égarement des gens vis-à-vis des compagnons par leur statut vis-à-vis de Mu'awiya radiallahu anhu. Et aujourd'hui, vous entendez des gens qui dénigrent Mu'awiya radiallahu anhu. Et ça, ce n'est pas autorisé. Al-Sunnah, il n'accepte pas ça. Vis-à-vis de tous les compagnons. Mu'awiya, c'est le frère de l'épouse du prophète A.S. C'est un des compagnons qui ont été choisis par le prophète A.S. pour écrire la révélation. Il a combattu aux côtés du prophète A.S. Il a fait ses éloges. Et il l'a choisi pour gouverner pendant son vivant, A.S. sur certaines régions. Et il a fait la salade derrière le Nabi A.S. Le Nabi A.S. dit « Sami'a Allahu liman hamidah » Mu'awiya radiallahu anhu dit « Rabbana wa lakal hamd » Pour ça, Abdullah ibn al-Mubarak, le grand tabi'i, a été interrogé qui est meilleur, Omar ibn Abdelaziz ou Mu'awiya. Vous savez, Omar ibn Abdelaziz, vous entendez beaucoup parler de lui, le calife, il ne fait pas partie des califes bien guidés, Lakin, le calife qui était juste et équitable et qui a retiré toute la richesse de sa famille, l'a partagé entre la communauté. Hein. Il a beaucoup de qualités, rahimahullah. Ils lui ont dit qui est meilleur, Mu'awiya ou Omar ibn Abdelaziz. Il a dit une poussière dans le nez de Mu'awiya, dans ses combats aux côtés du prophète Hassan, est meilleur que tout Omar ibn Abdelaziz. Une poussière. Yani Hada, c'est la parole d'un savant qui a compris le rang de Sahaba. Et que personne n'arrive à la cheville des compagnons, radiallahu anhu. Intouchable. Personne ne doit dire du mal d'eux. Et celui qui les dénigre ou qui dit du mal d'un seul compagnon, c'est un rafidi khabith. Il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un égaré. Il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma celui, comme a dit Cheikh Rabi, qui dit que la plupart d'entre eux c'est des mécréants, c'est lui le mécréant. Celui qui dit que la plupart des compagnons ont apostasié, c'est lui en réalité le mécréant. Et c'est pour ça l'amour des Médinois est un signe de la foi, comme le Nabi A.S. a dit. Il a dit « Ayatul imani, hubbul ansar » et la détestation des ansars est un signe de l'hypocrisie. Détester l'ansar, c'est un signe de l'hypocrisie. Alors que dire, ya ikhwa? Ça c'est rapporté dans le hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, dans les deux authentiques, ce hadith. Donc, ça c'est par rapport à l'amour des Médinois. Alors que dire des émigrés qui sont meilleurs à l'unanimité? Bien évidemment, leur amour est un signe de foi. Et les détester et avoir de la haine et de la rancune contre eux, c'est un signe de l'hypocrisie. Donc si on suit la méthode de Rafida, on va trouver la Rafida. C'est qui a inventé de la secte? C'est qui est à l'origine de cette secte? C'est un homme qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Il était surnommé Ibn Sauda, un juif, Abdullah Ibn Sauda, qui a montré aux gens qu'il est devenu musulman. Abdullah ibn Saba. Si on les suit, Abdullah ibn Saba est meilleur que Abu Bakr et Omar. Comme dit Cheikh Rabia. Et si on les suit, l'école de Abdullah ibn Saba est meilleure que l'école du prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce que l'école du prophète alayhi salam nous a sorti Abu Bakr, Omar, Uthman, Talha, Zubair, et ainsi de suite parmi les compagnons. Et l'école de Abdullah ibn Saba nous a sorti qui? Al-Rafida ou Al-Khawarij. Les deux viennent de la même école à la base. Ils se sont insurgés contre Uthman radiallahu anhu. Ils l'ont tué. Et après, il y a eu l'apparition de Al-Rafida. Donc si on les suit, Al-Rafida et Al-Khawarij sont meilleurs que les compagnons. Ça, Cheikh Rabi, il dit, les Khawarij et les Rawafid sont tous les élèves de Abdullah ibn Saba. Tous. Donc, si on suit leur raisonnement, c'est que Ibn Saba a fait sortir des gens et des élèves qui sont meilleurs que les élèves qu'a fait sortir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Excepté trois ou quatre, ou là, une dizaine de compagnons, pour eux qui n'ont pas apostasié. Sinon, tous les autres ont apostasié. Et les croyances de Rafida sont tellement nombreuses et tellement lointaines dans l'égarement. Rafida, dans leurs croyances, le Coran que nous avons entre les mains aujourd'hui, ce n'est pas le vrai Coran. Ce n'est pas le vrai Coran. C'est ce qu'ils disent dans leurs livres, comme le Kulayni. Ils disent que le Coran a été révélé 17 000 versets. Les compagnons ont retiré 3 000 versets dans lesquels il y a les mérites de la famille du prophète et de Ali, et que celui qui devait succéder au prophète alayhi salam. Et chacun de ces points, à lui seul, c'est un acte de grande mécréance. Croire que le Coran a été falsifié, ça c'est une grande mécréance. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Allah s'est chargé de préserver le Coran. Le Coran ne sera jamais falsifié. Le vrai Coran restera entre les mains des musulmans jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide de le lever vers lui, vers la fin des temps. Voilà par rapport aux compagnons du prophète alayhi salam, leur degré, leur mérite et leur classement dans le mérite et leur classement dans le khilafa, des points très importants que toute personne qui suit la voie de salaf doit connaître. Et comme on doit faire très attention quand on parle des compagnons, vient après eux leurs héritiers parmi et les héritiers des prophètes parmi les hommes de science. On doit avoir le respect et l'amour des savants de Al-Sunnah wal-Jama'a et de les respecter également et d'accepter leur conseils et leurs recommandations. Et ça, subhanallah, c'est parmi les causes de l'baraka chez les salafs. Chez les salafs, tu trouves des élèves de l'imam Malik, quand il lui demandait un conseil, il lui donne le conseil, il le met en pratique direct. Un des élèves de l'imam Malik qui a étudié avec lui pendant plusieurs années, vous imaginez une vingtaine d'années à l'époque, c'est comme il a étudié deux siècles aujourd'hui, avec son cheikh. Il a étudié avec lui plusieurs années et en rentrant chez lui, il lui a dit « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il lui a dit « Je te conseille de t'occuper de ta personne et de ton adoration d'Allah. » C'est-à-dire de ne pas propager la science. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a jamais propagé la science. Contrairement à ce que l'imam Malik a dit à d'autres de son pays, comme Abdullah ibn Wahab, il lui a dit « Premier conseil, propage la science et crains Allah. » L'imam Malik, c'est un savant. Il sait qui est habilité à le faire, qui n'est pas habilité à le faire. Lakin, ce qui compte ici, c'est que ces gens-là, ils demandaient conseil et ils le mettaient en pratique. Et ça, il y a des exemples extrêmement nombreux chez les salafs. Contrairement aujourd'hui, on entend les recommandations des savants, les conseils des savants, lakin, qui les met en pratique? Illa man rahim Allah. Enfin, à la voix par rapport à aujourd'hui, dans notre prochaine rencontre, nous allons parler d'un point qui est, comme certains disent, parmi les points chauds, qui concerne l'obéissance aux gouverneurs musulmans, qui est un point fondamental chez Al-Sunna al-Jama'a, qu'ils mentionnent dans leur livre de la croyance et qui fait partie des points très importants à connaître et de connaître ces règles afin de rester sur la voie de nos pieux prédécesseurs. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.